Cette vulnérabilité dont nous avions vu le caractère positif, comment est-ce qu'elle peut se transformer en quelque chose qui touche l'ensemble de notre communauté dans un pays, dans une nation, sur la planète, soit gentiment. Et pour cela, je vous propose de réfléchir maintenant un tout petit peu sur ce que nous avons appelé l'innovation sociale et l'innovation inversée. Bon, le mot innovation, tout le monde le connaît. Nous connaissons tous l'innovation industrielle qui fait que dans des entreprises ou dans le garage de certains parents, eh bien certains ont créé un produit, une machine qui a transformé nos vies. Nous utilisons tous ça, un ordinateur, etc. Le chauffage qui est dessous le sol de l'église. Toutes ces innovations, nous les connaissons. Ce sont des innovations industrielles et elles ont été inventées par des gens qui avaient la passion de la découverte, parce que généralement ça prend quand même un certain temps. Et puis, ils ont rencontré des hommes, sui generis bien sûr, des hommes qui se sont dit « celui-là, il a une bonne idée, si je lui donne un peu d'argent, nous allons être riches ». Et c'est vrai qu'un certain nombre d'industriels inventifs sont devenus très riches. Bon. Il y a aussi d'autres formes d'innovation qu'on connaît parfois moins, celles qu'on appelle les innovations organisationnelles. Alors celles-là, elles sont aussi lourdes de conséquences sur le plan financier, comme je le laissais entendre pour les précédents, mais elles sont plus discrètes. Vous avez tous vu, ceux qui vont au supermarché, que les sièges, les caissières des supermarchés, par exemple, ne sont plus les mêmes. On a changé le sens, etc. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient mal au dos. Ce n'est pas une machine, mais on a fait une innovation organisationnelle. De la même façon, les maçons qui sont sur les chantiers, ils tombent moins. Ce n'est pas parce qu'ils ont appris à être très habiles, c'est parce qu'ils ont une ligne de vie, que quand ils tombent, ça les rattrape. Ça, ce sont des innovations organisationnelles. Bon, moi je voudrais vous parler des innovations sociales. Et je vous expliquerai après pourquoi je veux d'abord parler de ça. Alors d'abord, pour parler de ces innovations sociales, je voudrais les définir. Alors je vais m'appuyer sur deux personnes, et je vais vous dire que ce sont des chercheurs franco-marocains. Pour moi, c'est important. Elle a trois cibles. Un homme, sui generis bien sûr, un milieu ou un territoire, et une entreprise, ou une entreprise. Ça peut toucher l'un, l'autre, ou les trois en même temps. Mais ce qui caractérise fondamentalement une innovation sociale, c'est qu'elle est localisée. Elle se fait à un moment donné, dans un lieu donné, avec ceux qui vont utiliser l'innovation. Vous voyez que les innovations sur le moteur électrique, même si vous avez une voiture électrique, vous n'y avez pas participé. Dans l'innovation sociale, si. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette innovation sociale, elle répond à des besoins. Et c'est la troisième caractéristique de l'innovation sociale, elle est d'apporter une réponse à un manque, un problème social qui ne peut être résolu que par, qui n'est pas résolu par une innovation traditionnelle, une innovation technique, en raison de la défaillance ou de l'absence d'intérêt du marché ou de l'État. S'il n'y a pas de marché, pourquoi voulez-vous qu'on crée un nouveau produit ? Il n'y aura pas de rentabilité. Donc il peut y avoir des besoins, mais s'il n'y a pas de marché, eh ben, il n'y a pas d'innovation. Et c'est là que vient se nicher l'innovation sociale. Parce que le besoin, il peut être profond, il peut être réel. Mais pour qu'on innove, il va falloir quelqu'un, quelques-uns, qui trouvent une solution avec ceux qui vont les utiliser. Le propre de l'innovation sociale, c'est qu'elle peut se développer n'importe où, sur n'importe quel terrain économique, dans n'importe quel secteur, dans une entreprise, à l'extérieur d'une entreprise, où que l'on veut. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient eu envie de la faire naître et de la faire grandir. C'est aujourd'hui, il y en a plein. On sait que ça existe. Et par exemple, il y a des économistes qui ont fait des tas d'études de cas pour regarder ces innovations sociales. Ils disent elles sont transformatrices, elles sont réparatrices, parce qu'elles améliorent la vie des gens. Et en quoi elles améliorent la vie des gens? D'abord, très souvent, celui qui utilise ouvre sa capacité à produire pour lui-même et pour les autres. Souvent, c'est ce qu'on appelle de l'autoproduction, c'est-à-dire qu'on produit pour soi, mais on produit aussi pour les autres. Cette innovation sociale, elle n'est pas forcément du bricolage. Elle peut très bien s'appuyer sur de la technologie, parce qu'il y a des technologies qui sont quelque part et qui sont à notre disposition et que personne n'utilise. Il y a aussi des savoir-faire qui sont quelque part et que personne n'utilise. Donc ça ne veut pas dire que, parce que c'est une innovation qui n'est pas technologique, elle n'utilise pas la technologie, les technologies d'aujourd'hui. Et bien sûr, je vais y revenir. Je vais y revenir parce que cette potentialité, ces potentialités d'utilisation technologique, elles sont aussi le fait de toutes les évolutions que nous avons connues. Alors, c'est ce qui me permet d'imaginer que l'innovation sociale va être une réponse à la vulnérabilité en s'appuyant sur le changement de regard que vous voulez bien accorder à la vulnérabilité aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être pas, mais dans les années 30, alors vous ne vous souvenez pas, surtout si vous n'étiez pas né, bon, moi non plus je n'étais pas né, alors ça va. Dans les années 30, on considérait que les innovations ne pouvaient venir que d'une partie de la Terre. Une petite partie, une bande géographique qui allait de l'Angleterre, en passant par la France, l'Allemagne, le sud de la Russie et juste au nord de l'Inde. Ailleurs, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que ce n'était pas des hommes comme les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Si vous prenez des textes de 1930, c'est écrit noir sur blanc. Il y a même des cartes. Les cartes de l'innovation possible. Bon. Ensuite, après 1930, on s'est beaucoup focalisé, comme je vous racontais tout à l'heure, sur l'innovation technologique. Parce que le XXe siècle a été une période de foisonnement absolument extraordinaire de l'innovation technologique. Et nous le savons tous. Nous ne vivons pas du tout comme vivaient nos parents, et nos parents ne vivent pas comme vivaient nos grands-parents. On est parfois même étonné de l'extraordinaire transformation de ce monde grâce à ces technologies, et en particulier toutes celles qui concernent le numérique, eh bien, elles transforment le potentiel des innovations sociales. Elles le transforment parce que l'information, et en particulier l'information technique, elle est à la disposition de chacun d'entre nous. Nous allons sur Internet et nous trouvons des tas de trucs, des tas d'astuces, des tas d'idées, des tas d'éléments scientifiques qui sont à notre portée. Première chose. Ce numérique, il facilite, et on l'a encore vu ce matin à l'Assemblée Générale, il facilite la création de communautés. On nous a dit, on vous envoie la newsletter, vous l'imprimez, vous la faites circuler, etc., etc. Effectivement, cette information numérique qui est à notre disposition, elle facilite la création de communautés. Et puis enfin, parce que un grand nombre d'entre nous aujourd'hui ont des ordinateurs à la maison, quand on est à la maison et qu'on réfléchit à des choses, par exemple à l'association dont on fait partie, à la communauté dont on fait partie, quand on est à la maison beaucoup parce qu'on est au chômage, on n'est plus forcément tout seul. On peut se mettre en relation immédiate avec d'autres. Alors vous voyez que dans cette transformation technologique du monde, il y a quelque chose qui met les gens en relation. Bien sûr, il faut le vouloir. Bien sûr, il faut le pouvoir. Mais c'est un potentiel qui s'est diffusé. Et il suffit de voir ce qui s'est passé il y a 2 semaines, lorsque un monsieur inconnu de la planète France a décidé de faire des grandes marches pour le climat et qu'on a vu dans énormément de villes de France des gens qui marchaient pour le climat. C'est-à-dire que cette vie de relation, aujourd'hui, elle est beaucoup plus accessible que ce n'était le cas. Et donc, dans ces conditions, elle réduit quelque part une partie de la vulnérabilité et elle permet de rendre plus accessible cette vulnérabilité positive. Alors, ça ne suffit pas, bien sûr. Ça ne suffit pas parce que quand on est en grande période de vulnérabilité, on a de multiples blessures qu'il faut réparer et difficultés à ces personnes à aller vers cette transformation. C'est cela qui va nous conduire à regarder la vulnérabilité positive et l'innovation sociale un peu autrement, avec l'aide de Paul Ricoeur et de Frère Gilles.
Merci. Alors je continue la promenade, mais j'emprunte quelques petits sentiers très agréables, que Paul Ricoeur appelle les traces. Il oppose justement la trace aux frontières et aux barbelés qui excluent, mais les traces qui permettent de se rencontrer. Alors, de fait, toute son œuvre est à la recherche d'une idée qu'il a depuis le commencement, qui est la définition de l'action humaine. Donc, action, et on voit la création, par exemple, d'entreprises, d'innovation sociale. Et il définit donc l'homme, non pas par lui-même, et c'est ça le changement de modèle, comme on dit, en paradigme anthropologique, enfin, le changement de modèle qui est l'homme. L'homme est un homme capable. Voilà sa première définition. Et cette capacité, il la met au service de l'éthique. L'homme n'est pas capable de tout et n'importe quoi. L'homme est capable quand il s'affronte à la limite. Et c'est donc qu'on retrouve le thème de la vulnérabilité qui recouvre toute l'humanité, puisque l'humanité est sous l'horizon de la finitude de la mort. Comment s'affronter, par exemple, à la mort? C'est la vraie question de la vie. Je pourrais citer ici Maurice Sintel, un mystique du XXe siècle, un très grand penseur du XXe siècle, qui dit « Oh, on me pose toujours des questions sur l'au-delà. Et moi, je me demande si on sera vivant jusqu'à la mort, au lieu de savoir s'il y a une vie dans l'au-delà. » Bien, c'est exactement la même chose dans la vie éthique. Alors, la capacité. On retrouve saint Augustin qui définissait l'homme chrétien, croyant, à partir de sa foi chrétienne, l'homme est capable de Dieu. Et que ce thème de la capacité est très fort, justement, par rapport au thème de la vulnérabilité. Parce que toutes les occasions où nous voyons que l'homme est vulnérable sont des occasions ponctuelles. On est malade, comme l'a dit Marie-Christine tout à l'heure, il y a une fragilité, on répare. On a une panne, on répare. on a une maladie, on cherche à en guérir, etc. etc. Mais qu'en est-il de l'humanité elle-même? Et c'est là qu'il nous faut trouver un chemin de vivre ensemble, et c'est la part profonde de l'éthique. Et l'éthique, je la résume selon une formule de soi-même comme un autre, où on voit déjà que l'homme n'est que relation et que c'est par la relation qu'il devient un homme. L'homme reçoit la vie, ce que je vous disais ce matin, l'homme est en relation pour que la vie soit. Et donc, la vie éthique, c'est à la fois je pense donc je suis de Descartes, je vais y revenir, en je se tourne par la vie de la bonté vers autrui dans une institution juste. On voit que là, il relie bonté et justice. Et c'est ce qui a été déjà déterminé par la première approche de la vulnérabilité qui a abouti, par exemple, à la sécurité sociale. Il faut que l'institution sociale soit juste, c'est-à-dire qu'elle soit en faveur non seulement du plus grand nombre, mais de tous. Le plus grand nombre, on peut l'obtenir par la charité du partage, mais l'institution doit viser la protection de tous, de tous les citoyens, de tous les citoyens du monde, si vous voulez. Donc on a à la fois la relation interpersonnelle, mais le cadre qui doit être justement une institution juste. Maintenant, nous pouvons aller plus loin parce que si la bonté c'est se tourner vers l'autre, cette bonté est réflexive. Je suis tour à tour l'acteur de la bonté et le récepteur de la bonté. Je suis tour à tour acteur de la vie et récepteur de la vie. Et ce tour à tour montre bien que les vulnérabilités ou les fragilités sont des points, tandis que ce qui sous-tend toute la vie, c'est la vulnérabilité positive elle-même. C'est-à-dire que nous découvrons que être un homme, c'est être capable d'être touché par l'autre. C'est la personnalité la plus profonde d'un homme, ce n'est pas tant de devenir capitaine d'industrie, de devenir un vulnérable, tout cela va se fracasser sur le mur de la mort, mais c'est que dans cette vie-ci, nous apprenons que la vraie vie consiste à être touché. Le premier niveau de l'amour, ce n'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. C'est le fait d'équilibrer d'une réponse. Donc on pourrait parler maintenant d'une vulnérabilité positive dans l'humanité. Mais cela ne suffit pas. Ne suffit pas aux croyants que je suis devant vous en essayant de rendre compte justement de ma foi en un Dieu créateur et sauveur. Le même créateur et sauveur. Est-ce qu'il s'agit tout simplement de la limite humaine? Mais alors, qu'en est-il de la vie éternelle? Qu'en est-il du royaume où saint Paul nous dit que Dieu sera tout en tous, c'est-à-dire qu'il sera celui qui respecte l'unicité et la personnalité de chacun. Chacun est unique. Et allons encore plus loin, comprenons que si Dieu est amour et qu'il fait miséricorde, il faut que lui-même
soit atteint, affecté par nous. Et donc que Dieu soit affectable, c'est-à-dire qu'il est en lui quelque chose qui est affecté, qui est sensible, qui est tourné vers. Et en même temps, que se tourner vers nous, cette attention à nous, le remplit de quelque chose. En quelque sorte, la plénitude est à remplir. La plénitude n'est pas un plus, la plénitude est un réceptacle du plus. Et voilà pourquoi nous pouvons maintenant comprendre en quoi l'Évangile est la bonne nouvelle non seulement de notre salut, mais de notre connaissance de Dieu tel qu'il est lui, non pas tel que l'homme peut le penser. Et c'est là, effectivement, que nous ne devons pas opposer, mais combiner le Dieu des philosophes et le Dieu de la révélation, le Dieu de la foi. Puisque Dieu se laisse connaître de deux façons. Il se laisse connaître en tant que créateur, puisque nous sommes à son image, il nous a donné la capacité de le recevoir. Et c'est ce que nous développons par notre intelligence, en essayant de regarder, de remonter de la trace de la présence de Dieu jusqu'à la source de la présence de Dieu. Maintenant, ceci peut ne pas être partagé par d'autres, mais c'est un terrain de discussion de toutes les traces de vie que nous pouvons partager jusqu'aux limites du monde. Maintenant, la meilleure façon de connaître Dieu, nous le savons, c'est par Jésus-Christ. Or, l'humanité du Christ, elle est commune avec nous. Regardez, c'est toute une méditation tout à fait magnifique de Jean Vanier sur la Noël. Regardez que la toute-puissance de Dieu habite un petit enfant que le premier microbe pourrait détruire à la Noël. En plus, c'est dans une crèche. Et en plus, je ne sais pas si le chauffage de l'âne et du bœuf est selon les normes françaises. Donc, Dieu s'est vidé de lui-même pour habiter parmi nous par le plus vulnérable possible, de la naissance à la Noël, à la croix. Tout en Jésus est vulnérabilité positive. Jésus ne passe son temps de vie publique, d'abord après la vie cachée de Nazareth, 30 contre 3, quelle efficacité, quelle rentabilité. Et 30 ans de formation pour 3 ans de pratique, c'est pas tellement les chiffres de l'industrie française. Enfin, je me tourne vers toi pour que tu me...
Ça ne sera pas bien du tout.
Et donc, pendant 30 ans, Jésus a appris à Dieu ce que c'est que d'être un homme, que d'avoir un cœur qui bat, de devoir manger, de se reposer, de dormir. Et nous avons spontanément un refus du concile de Chalcédoine qui dit que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Si vous demandez à la sortie d'une messe, voilà, peut-être pas à Chalet, est-ce que Jésus savait lire et écrire ou sa table de multiplication ou est-ce qu'il a dû apprendre la table de multiplication? Ben bien sûr, il est Dieu, il sait tout. Non, il a appris que 2 plus 2, ça faisait 4. 2 plus 2, 4. Voilà, il l'a appris, Jésus. Et il a vécu justement la question de l'avenir et de l'anticipation de l'avenir dans le présent, de même que dans sa vie publique. Et ensuite, nous voyons que le maximum de la révélation que l'humanité de l'homme est capable de recevoir la volonté de Dieu, nous le voyons à Gethsémani. Non pas ma volonté, mais ta volonté, non pas parce qu'il aurait démissionné de sa liberté, c'est qu'il reçoit dans le moment le plus abyssal, il reçoit le fait que la volonté de Dieu, et il le constate, la volonté de Dieu n'est qu'amour. Elle n'est pas puissance, elle n'est pas ceci ou cela de nos représentations humaines. Et en ce sens, puisqu'il est amour, il ne peut que faire, c'est-à-dire l'être, c'est être amour, et j'en viens à la Trinité, et le faire, c'est le faire de la miséricorde, c'est-à-dire de continuellement mettre de l'amour là où il n'y en a pas. Et le problème, justement, qui vient à l'homme, c'est qu'il est, justement, capable d'être inhumain. Et c'est là qu'est le problème de la vulnérabilité négative. C'est qu'en tant que capable d'inhumanité, l'homme crée ou refuse de voir les effets qui sont potentiellement et activement dans la personne de la personne vulnérable. Puisque la vulnérabilité négative est ponctuelle, la vulnérabilité positive est toute la vie. C'est une plénitude. Et c'est une plénitude où puiser pour justement lutter contre la vulnérabilité négative. Parce que devant l'inhumanité dont l'homme est capable et dont Dieu est incapable, devant l'inhumanité de l'homme, il n'y a qu'une seule chose à faire, la combattre. Alors, je reviens à la définition que j'esquissais tout à l'heure, de l'homme selon Heidegger, et qui nous plonge dans quelque chose d'abyssal. Il définit dans son œuvre « Sein und Zeit » l'homme comme l'être tiré pour tiré la tiré mort. Voilà une affirmation, et dont cette vérité est étouffante de la vie. Et effectivement, dans le contexte de Heidegger, on comprend des choses comme la naissance du nazisme, comme justement devant ce déterminisme de la mort, et il y a bien eu le slogan « Viva la muerte » dans la guerre civile espagnole, eh bien il n'y a plus que le héros nietzschéen, le surhomme, qui lui tire profit de ce temps qui n'est que voué à la mort par une espèce de starification ou d'auto-starification d'un élément de la vie humaine. Donc c'est extrêmement grave parce que cette vision d'une finitude enfermante et emprisonnante empêche justement ce qui pourrait survenir dans l'imaginaire humain pour le guérir de son inhumanité. Et c'est là que je peux aussi esquisser quelque chose à propos de Freud. C'est que Freud est un médecin avant tout, et il voit l'homme à travers le prisme de ses patients. Et effectivement, ses patients souffrent de pathologies souvent très lourdes. Des pathologies où justement l'homme, on ne sait plus où il est, entre l'homme et le fou, on ne sait plus. Et il va, d'une certaine manière, reprendre saint Augustin en disant que notre inconscient est fondamentalement malade. Et un médecin voit un malade, et donc comment guérir le malade ? Mais nous avons plusieurs philosophes qui ont enfin compris que notre inconscient n'était pas que malade. Notre inconscient peut être capable de soleil, de vie et d'imagination positive. Et l'imagination positive, Ricoeur dit que c'est ce qui nous permet, la poésie de la vie, qui nous permet de voir la vie autrement que recouverte de ce terrible manteau du déterminisme pour la mort. Et qu'on peut voir des soleils de paradis qui peuvent, justement grâce à l'amitié et à la relation, devenir des projets qui, issus de cette inhumanité de l'homme, peuvent devenir des tables émotionnelles. Ainsi, la vulnérabilité se prend de Dieu lui-même, à travers la vie de Jésus-Christ, et tu vois bien, on en parlait dans la voiture, que les évangiles, les quatre évangiles, c'est l'identité narrative de Jésus racontée aux autres. Et c'est-à-dire que dans la narration de notre vie, nous pouvons avoir des aspects contradictoires. Nous pouvons avoir pensé ceci, et puis on s'aperçoit que, ben non, on peut évoluer, changer, transformer, bref, se convertir. Et donc, maintenant, quels sont les points d'attache qui vont nous permettre de convertir la vulnérabilité en traversée d'espérance? C'est ça le point focal, le point nodal. Comment cette vie pour la mort ne peut que traverser la mort pour aller vers la vie? C'est-à-dire que la mort n'est pas la fin, mais la traversée. Et ça, nous le prenons de Jésus lui-même, puisque sa mort est devenue source de résurrection et que le baptême nous ouvre à une vie de résurrection, non seulement après la mort, mais dès maintenant. Et c'est là que nous découvrons aussi en quoi Dieu est amour et donc créateur et sauveur, et que donc c'est l'amour qui peut être l'ancrage à partir duquel va s'opérer toutes les conversions, reconversions, toutes les innovations et toutes les innovations justement inversées, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas construire un monde uniquement technologique de l'homme prédateur, parce que le même Descartes que je vous citais tout à l'heure dit au chapitre 6e du discours de la méthode, dit « l'homme est comme » alors lui, il a mis un « comme » de précaution, mais je dois dire que dès ses disciples, le « comme » a sauté, et aujourd'hui, on est bien dans l'absence du « comme », l'homme est maître et possesseur de la nature. À partir du moment où l'homme maîtrise, l'homme veut tout maîtriser, il accomplit cette chape de finitude qui recouvre l'humanité. Voilà pour qu'ils deviennent des moments éthiques pour nous dire, et finalement, si nous continuons à être prédateurs de la vie, la vie va s'insurger contre le prédateur. Il faut que nous puissions crier au loup quand on voit que l'homme est un loup pour l'homme. Il faut que nous cessions de baisser la tête ou de dire « c'est tellement plus fort que moi que je n'y peux rien ». C'est cette résignation au mal qui est la source des blessures de l'humanité, qui est la source des misères, des absences d'amour. Donc comment maintenant résister, s'insurger, s'indigner et créer des réseaux d'indignation tels que nous pourrons nous servir de ce levier pour changer et inverser, et dans la société et dans l'âme humaine, cette question de la blessure qui devient l'occasion où, justement, s'échappe de cette blessure en direction de l'autre, la bonté, comme du cœur du Christ a coulé le sang et l'eau de la vie, eh bien, de nous, blessés, peut enfin s'écouler ce qui était retenu prisonnier à l'intérieur. Et je termine par la parabole que saint Paul nous a donnée et qui nous montre bien en quoi Dieu est vulnérable et le premier des vulnérables. Nous sommes des vases d'argile qui portons l'or de l'amour, un amour de Dieu, parce que Dieu est vulnérable en tant qu'il est affecté par nous et en tant qu'il est auto-affecté en tant que Trinité. Le Père, quand il est la source de tout, il risque son Fils. Sinon, ce ne serait pas le Fils bien-aimé. Si le Fils bien-aimé était automatiquement dans la réponse « Oui, tu m'as créé » ou « Oui, tu m'as aimé et moi je t'aime », l'amour n'est pas un automatisme a priori. L'amour est une expérience toujours nouvelle. Et en ce sens, quand le Fils, il le risque, il risque de ne pas recevoir son amour en retour, il le lance en quelque sorte. Et c'est l'audace de cette réflexion qui est le propre des mystiques, que les théologiens dogmatiques ne peuvent pas même écrire, mais c'est le propre des mystiques de nous pousser plus loin que les représentations de Dieu que nous pouvons avoir a priori. Et cet amour mutuel est tellement peu automatique qu'il est une personne, avec toute la liberté d'une personne, qui s'appelle le Saint-Esprit. Cette personne nous est donnée, en plus, et nous est donnée à foison. Seulement, si vous essayez de maîtriser l'Esprit-Saint, vous n'y arriverez pas, parce que c'est un vent, nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va, et c'est le vent de l'amour. Nous sommes porteurs de cet amour-là, comme dans un vase d'argile. Alors, un vase d'argile, c'est fragile. Il peut y avoir des crevasses dans le vase d'argile. Alors, il y a deux façons de voir la vie. Je me dis, mon Dieu, Marie-Christine est en train de me regarder, parce qu'elle pense que le temps est accompli. Alors, qu'est-ce que je fais? Je bouche les trous de mon vase, je le peins pour que vous soyez très contents. C'est la première façon. J'apparais comme l'invulnérable. Sinon, je laisse les blessures, les trous, les meurtrissures de mon vase en me disant que peut-être qu'un enfant qui passe par là va voir enfin l'amour de Dieu.
Alors, nous avions le souhait de terminer notre réflexion sur quelque chose d'extrêmement concret. Si j'ai évoqué cette innovation sociale, si j'ai évoqué et si nous avons évoqué cette vulnérabilité et d'où elle venait et comment est-ce qu'elle pouvait être transformée et comprise, eh bien, c'est que face à cette très grande faiblesse temporaire mais existante, aujourd'hui dans notre monde, un grand nombre de structures, d'associations, ont réfléchi, se sont mobilisés, se sont creusés la tête pour essayer, avec à la fois leur cœur et leur force, de trouver des moyens d'inventer une façon de faire sortir ceux qui étaient à ce moment-là très vulnérables et de les conduire autrement. Des structures comme ça, nous en connaissons tous. Nous connaissons aussi certaines qui se sclérosent et d'autres qui nous émerveillent. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Parce qu'au fond, ce regard sur la vulnérabilité, ceux qui sont dans la structure d'accompagnement ont parfois l'impression qu'ils sont moins vulnérables que les autres. Et donc, au fond, ils sont au-dessus. Et les autres, ils sont en dessous. Dans certaines de ces structures, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a pas de « en dessous » ou « en dessus ». Il y a la forte compréhension de ce que disait Frère Gilles tout à l'heure. Nous sommes tous vulnérables, mais à un moment donné, l'autre a besoin que je l'écoute. Et que je sache, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a plein de capacités en lui et que ces capacités en lui ne peuvent pas éclore aujourd'hui parce que, et il faut faire éclore ces capacités pour que l'homme ne souffre plus. Pour que l'homme puisse à nouveau se sentir partie prenante de notre écosystème. C'est difficile. Certains ont défini des chemins et nous avons rencontré ensemble des équipes qui ont fait, qui ont construit ces chemins petit à petit et qui nous ont expliqué en particulier que le fondement de la quête contre la résilience à une période de vulnérabilité, c'était l'écoute de celui qui peut porter un projet. Ces projets, ils existent partout. Les besoins, ils existent partout. Et donc, c'est cette émergence-là que nous avons vue à l'œuvre dans plusieurs organisations. C'est ce chemin-là que certains d'entre vous ont participé. C'est ce chemin-là que vous allez peut-être nous présenter pour ceux qui ont l'impression, qui ont le sentiment, qui ont l'assurance qu'aujourd'hui, ils ont déjà vécu ça et qu'ils le voient vivre autour d'eux. Et donc, je vous donne la parole.